Radio Kati, la fréquence de la paix,
au Kati.
Avec le soutien des coopérations suisses, britanniques, américaines et néerlandaises.
Au Kati.
Radio Kati, le souffle du Congo.
Voilà, nous restons dans les domaines de la santé pour vous dire que 83 zones de santé en République démocratique du Congo sont appuyées par la Banque mondiale dans le cadre de son projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS. L'objectif, c'est de permettre à la population d'accéder aux soins de santé de qualité et renforcer la lutte contre les maladies telles que la malaria, VIH-Sida et tuberculose. Ce projet vise également à réduire la fréquence des maladies évitables par la vaccination. Quel est l'impact social de cet appui financier dans l'amélioration des conditions sanitaires de la population? Nous faisons le point dans cette émission avec nos invités, mais pour l'instant, le point de la situation avec Marcel Ngombo Mbala. Marcel, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Alors, en quoi consiste exactement ce projet?
En fait, c'est un projet d'un don de 150 millions de dollars américains financé par la Banque mondiale dans les secteurs de la santé en RDC. Comme vous le savez, le pays est très vaste. Il y a des provinces où l'accès à des soins de santé essentiels pose énormément de problèmes, raison pour laquelle le projet PARS a ciblé 5 provinces, à savoir le Bandundu, la province de Kinshasa, notamment dans la partie est. Il y a l'Équateur, il y a la province de Katanga, le Maniema. Alors, dans chacune de ces provinces, on a ciblé les districts et zones de santé où les indicateurs de pauvreté étaient les plus forts. Voilà, c'est, ce projet a ciblé ces districts et ces zones de santé dans les provinces que j'ai citées.
Oui, alors quel est alors l'appui de la Banque mondiale dans ces zones de santé?
Alors, conformément à ce projet, l'appui consiste à aider les centres de santé à soigner les malades et à organiser des soins préventifs pour des maladies transmissibles comme la tuberculose, la rougeole, la trypanosomiase, à renforcer la prise en charge de couches vulnérables comme les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, et à renforcer également la lutte contre le paludisme qui, on le sait, frappe généralement les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans. Mm-hmm. Et rien que pour ces volets, je vous dis, il faut dire qu'il y a un financement de l'ordre de 30 millions de dollars sur les 150 millions qui sont alloués à ces projets PARS. Et il faut parler également de fournitures en équipement médical, en recyclage du personnel médical.
Oui. Alors Marcel, quel est le bilan? Quel bilan peut-on faire aujourd'hui, à l'heure actuelle, de ce projet PARS?
Pour rappel, c'est un projet qui est entré, qui est devenu effectif au mois d'avril 2006 et en principe qui doit s'étaler sur 4 ans. Pour ce qui est du bilan actuel, je vous propose de suivre le docteur Jean-Jacques Wangata qui est le coordonnateur du projet.
Il y a des efforts importants qui ont déjà été réalisés au vu des défis énormes qu'on a dans les zones d'intervention. Et on voit que compte tenu des problèmes d'accessibilité dans notre pays, nous avions réussi à ce jour à mettre en place des équipes de nos agents d'exécution. Donc on a appelé les agents d'exécution partenaires, ils sont déjà opérationnels sur terrain. Et grâce à l'intervention de ces agences, on a réussi, conformément aux prescrits du projet, à assurer une mise à niveau du personnel de ces zones de santé à travers des recyclages. Nous avions lancé des commandes pour avoir des équipements. Il y a des médicaments essentiels génériques qui sont déjà acquis au niveau des zones de santé du projet. On a assuré la distribution de matelas. Nous avions lancé une commande d'environ 3 millions de moustiquaires et à ce jour, il y a déjà sur le bateau à partir de la Chine environ 1 million de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée qui sont en train d'arriver. Et puis, il y a une commande des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine qui est la nouvelle combinaison thérapeutique pour prendre en charge des cas de paludisme. Évidemment, il y a aussi la quinine pour les complications qui est également commandée. Concernant la composante suivi évaluation, il y a une enquête baseline, une enquête de départ qui a déjà été réalisée. Alors au niveau de la population, on voit qu'il y a déjà un effort au niveau des districts sanitaires pour l'amélioration des couvertures vaccinales, l'amélioration de la qualité des soins grâce à ces intrants.
Voilà, vous êtes au Congo, vous nous écoutez sur Internet, n'hésitez pas à réagir, appelez-nous au 081-890-6394, et si vous nous écoutez sur Internet, vous avez la possibilité de nous écrire à l'adresse action@radiocapi.net. Alors Marcel Ngombo, est-ce que sur terrain les résultats sont perceptibles?
Cela dépend, je dis, on pourra dire, d'une zone de santé à une autre. À Kinshasa, on peut citer la zone de santé de Kimbanseki, qui a déjà réceptionné un lot de médicaments essentiels par rapport à ces projets PARS, mais selon le médecin chef des zones de santé de cette zone que nous avons contacté, le lot de médicaments est déjà là, mais on n'a pas encore commencé à distribuer. Mais il faut dire que le problème se pose autrement dans les provinces. Prenons le cas de l'Équateur, une province où on retrouve 42 zones de santé sur les 83 retenues dans le cadre du projet PASS, et qui ne marche pas encore pour le mieux, comme le souligne le docteur Pierre César Idumba Dumba, médecin chef de district à I de la Mongala.
Pour l'appui des taxes au niveau du district de la Mongala, nous attendions au cours de réalisation, donc on avait prévu la réhabilitation de 8 hôpitaux, l'approvisionnement de médicaments, des équipements médicaux et mobiliers, l'achat de 8 véhicules et 3 motos par zone de santé, et l'achat de vélos pour les centres de santé, et puis la formation, l'accompagnement technique des structures de santé, et enfin l'appui au fonctionnement des zones de santé. C'est ce qui est prévu pour le projet TARS dans le district de la Mongala. Mais sur cela, donc, ça ne marche pas encore parce que sur les points cités là-bas, il n'y a que la commande de médicaments qui est réalisée et le médicament est déjà à Kinshasa selon les responsables de TARS localement. Et puis il y a l'achat des matelas qui est en route. Et ce qu'on a aussi réalisé, c'est seulement la formation. On voit déjà 4 médecins à l'école de santé publique et localement, on a déjà organisé des ateliers dans le TARS local. Et il y a un appui minime seulement au niveau de la zone de santé pour le fonctionnement et puis l'achat des carburants. Ce n'est que ça ce qu'on a réalisé. Donc, il y a un retard dans le démarrage effectif des activités. Donc, la population attend beaucoup.
Voilà, Marcel Ngombo, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi pour savoir si ce projet est réellement bien exécuté sur terrain?
En tout cas, nous avons posé cette question au docteur Jacques Wangata, parce que je dis, il faut le dire, il est très important de qu'il y ait un suivi par rapport à tous ces projets. Vous venez de le suivre pour les cas de la pointe de l'Équateur, une province où on retrouve 42 zones de santé, mais jusque-là, voilà que tout ce qui a été, qui doit être réalisé par rapport à toutes ces zones de santé, rien n'est encore vraiment fait. Et nous avons posé la question au docteur Jacques Wangata pour savoir qu'est-ce qu'il en est du suivi par rapport à tous ces projets. Je vous propose de l'écouter.
Le suivi de la mise en œuvre du projet se fait, à mon avis, à 4 niveaux. Il y a d'abord le niveau central, ici au niveau du ministère, dans le cabinet de son Excellence Monsieur le Ministre et du Secrétaire Général, à travers l'unité de coordination du projet. Nous organisons régulièrement des missions de supervision et ces missions sont faites conjointement avec les experts de la Banque mondiale pour s'assurer que ce qu'on fait se fait correctement. Il y a aussi l'implication des directeurs du niveau central qui font ces missions de supervision. Deuxièmement, nous avions recommander le leadership des autorités provinciales et dans chaque province, le ministre de la Santé de chaque province est informé du contenu du projet et il en est le leader, l'acteur principal au niveau de la province et lui il travaille avec les médecins inspecteurs provinciaux et ses collègues sur le terrain. Ça c'est donc un deuxième niveau. Le troisième niveau c'est au niveau des zones de santé même et les zones de santé, comme nous avons des agences d'exécution, ils sont tout le temps en partenariat. Nous faisons un effort pour que tout se fasse dans la transparence et pour ça, donc les acteurs qui sont au niveau des zones de santé, même les représentants des communautés au niveau des différentes zones de santé, donc je parlais des administrateurs du territoire en périphérie, etc., ils ont un œil sur la mise en œuvre du projet parce qu'ils connaissent le projet.
Voilà, nous parlons du projet PARS de la Banque mondiale qui appuie le secteur de la santé. Marcel Ngombo, nous vous disons merci pour toutes ces informations. Nous allons accorder la parole à nos invités. Et nous avons Jean-Pierre Machandé, chargé du programme PARS à la Banque mondiale, et nous aurons également Dr Miakala Miadilongo, secrétaire général de la santé. Merci Marcel et à très bientôt.
Merci, je vous revois à tous.
Découvrir la culture de votre pays dans toutes les langues du pays. Découvrir les cultures du monde entier juste en tendant l'oreille. Théâtre, cinéma, littérature, musique, coutumes, traditions, danse, festival, conte. prêter nous vos oreilles et nous serons vos yeux tous les samedis au Okapi Métissage sur Radio Okapi. De 15h à 19h, heure de Kinshasa, de 16h à 20h, heure de l'Est. Okapi Métissage sur Radio Okapi, c'est juste pour le plaisir.
Voilà, Jean-Pierre Machandé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chargé du programme PARS à la Banque mondiale. Vous appuyez le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Mais d'entrée de jeu, c'est quoi le projet PARS?
Ben, vous l'avez entendu, hein, c'est un projet de 150 millions de dollars qui appuie donc les fameuses 83 zones de santé dont on a parlé, plus une grosse composante paludisme consistant dans la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés de longue durée et des médicaments à base d'artémisinine pour le traitement du paludisme.
Oui, en mais gros, PARS, ça veut dire quoi, le terme
PARS, c'est le programme d'appui à la réhabilitation et la restructuration du secteur santé.
Ah, ok. Et c'était un programme qui appuie le secteur de la santé avec un montant de, on a parlé de 150 millions de dollars.
Oui.
Je crois que c'est cela.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est depuis quand que vous avez lancé ce programme dans notre pays?
Oui, donc vous avez entendu tout à l'heure, on disait qu'il avait été effectif, c'est-à-dire du point de vue de la Banque mondiale, les fonds étaient disponibles à partir d'avril 2006.
Oui.
Bon, il y a eu, disons, des délais dans la contractualisation des ONG qui étaient chargées, des ONG internationales qui étaient chargées de la mise en œuvre du programme dans les provinces.
Oui.
Et puis donc, au moment de la signature du contrat au mois de juin 2007, il a fallu encore quelques mois pour la mise en place des équipes des ONG. Alors chaque ONG a 4 personnes, hein, ce sont des équipes de 4 personnes, avec un chef de projet, avec un logisticien, etc. Et ça reflète un petit peu la difficulté du pays, où on a dû remarquer, par exemple, qu'il y a plusieurs personnes qui avaient été engagées, qui sont arrivées sur le terrain, qui ont démissionné, qui ont dû être remplacées.
Oui.
Donc c'est vers octobre qu'on a commencé à voir, disons, une stabilisation des équipes des ONG sur le terrain.
Et pourquoi la Banque mondiale a choisi d'appuyer le secteur de la santé alors qu'il y a d'autres domaines, par exemple l'éducation et d'autres domaines? Pourquoi avoir ciblé le domaine de la santé?
Bon, écoutez, à la banque, on se reproche pour le moment d'intervenir dans trop de domaines. Là, on travaille dans l'éducation, on travaille dans l'eau, dans l'énergie, maintenant dans l'agriculture, dans les routes.
Oui.
En fait, non, on travaille partout.
Donc,
mais c'est peut-être un peu trop d'ailleurs. C'est un petit peu ce qu'on se dit en ce moment, c'est qu'on est un petit peu dispersé. Mais bon, le projet est lancé, 150 millions de dollars, c'est quand même important sur le secteur santé.
Oui, alors tout à l'heure, en suivant Marcel Ngombo, nous avons retenu que le projet PARS a ciblé 5 provinces, notamment la province de Bandundu, Kinshasa, Équateur, Katanga, Maniema et Kinshasa. Alors il y a un auditeur qui le dit, il s'appelle Jonathan, depuis Butembo, il dit: je m'étonne que parmi les provinces, le sud et le nord Kivu ne soient pas inclus. Pourquoi? Et pourtant la guerre a sévi ici.
Évidemment, le choix des provinces se fait en coordination avec les autres bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, la Belgique, l'USAID. Et on s'est réparti les tâches. C'est un peu normal qu'on ne va pas intervenir ensemble dans la même province. Donc, je pense que pour Butembo, je pense que c'est l'Union européenne qui travaille là-bas.
Et pour le Nord et le Sud Kivu, c'est aussi l'Union européenne?
Pour le Nord Kivu, certainement. Pour le Sud Kivu, je crois qu'ils sont présents également.
Mmh. Alors, parlons des infrastructures. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la Banque mondiale intervient aussi là. Mais parlons plutôt des bâtiments, notamment les centres de santé. Ça signifie que la Banque mondiale va réhabiliter tous les centres de santé de ces 5 provinces?
Bon, tout d'abord, je crois que ça vaut la peine de reparler un petit peu du mur santé, qui était donc le projet qui précédait le PARS. Et qui a démarré en 2003. On a tiré les leçons de ce projet, notamment en ce qui concerne les réhabilitations. On avait un petit peu trop dépensé à l'époque sur la réhabilitation, ne laissant pas trop d'argent pour les médicaments et les autres interventions. Alors on a limité dans ce projet-ci, dans le PARS, on a limité le niveau des réhabilitations à 20% du montant, ce qu'on pense suffisant. Hein. Alors, je crois que ça devrait suffire quand même à réhabiliter, je veux dire, remettre en fonctionnement une formation sanitaire qui existe. Ça ne permettrait pas de nouvelles constructions, mais pour le moment, la priorité, c'est de faire fonctionner ce qui existe. Et il y a pas mal. Hein. Vous savez que vous avez un pays où vous avez la chance d'avoir une large couverture. Simplement, les formations sanitaires sont en très mauvais état. Alors, souvent aussi, ces formations sanitaires ont un personnel suffisant.
Oui, Jean-Pierre Machandé, depuis que ce projet est lancé, vous avez dit que c'est depuis 2006, mais il y a certaines zones ciblées qui ne sont pas encore couvertes. Par exemple, la province de l'Équateur, on a appris que jusque-là, rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Non, rien n'est fait. Vous avez entendu le médecin qui parlait avant moi. Il a dit qu'il y a eu des formations, qu'il y a eu de l'appui au fonctionnement, qu'il y a donc les médicaments qui n'étaient pas encore arrivés. Là, je viens d'apprendre en rentrant ici, je téléphonais pour savoir où étaient les médicaments. On vient de me dire que les médicaments sont arrivés en Bandaka. Ça arrive par bateau. Et donc ça doit continuer, si vous voulez, sur la Mongala. C'est à la Mongala hein, dont on parlait tout à l'heure. Ça va arriver dans les jours qui viennent. Vous avez appris que maintenant les moustiquaires imprégnés sont partis de Chine. Hein, ils sont sur le bateau et arrivent. Donc ici, il y a 1 million de moustiquaires qui vont être distribués gratuitement dans tout le pays. Oui. Tout ça prend du temps. Vous savez bien que on ne peut pas acheter un chat dans un sac. Il faut utiliser des procédures rigoureuses pour avoir le meilleur prix. Et c'est ce qui s'est passé.
Donc tous ces médicaments, c'est surtout pour lutter contre le paludisme.
Non, c'est des médicaments pour toutes les maladies.
Pour toutes les maladies. Oui, alors tout à l'heure, vous avez suivi, nous avons été à Bandundu-Ville pour parler de la malnutrition. Est-ce qu'il y aura aussi un aspect côté malnutrition, parce que c'est aussi un problème réel, hein, ici au Congo.
Oui, tout à fait. Mais, écoutez, le paquet d'activités minimum qui est délivré au niveau de la zone de santé, dans toutes les formations sanitaires, forcément inclut la nutrition. Mais nous n'avons pas prévu de...
Oui, allez-y.
Nous n'avons pas prévu de une composante particulière pour des suppléments nutritionnels. Par contre, les médicaments, si vous voulez, pour les enfants mal nourris, il y en aura.
Alors, comment s'est fait la collaboration entre la Banque mondiale et le ministère de la Santé dans le cadre de ce projet PARS?
Bien, on travaille très régulièrement avec, comme vous avez entendu, le docteur Jacques Wangata. C'est quelqu'un que je vois pratiquement tous les jours. En tout cas, je l'ai au téléphone toutes les quelques heures. Hein, on se parle très régulièrement. Oui. On échange énormément par email. Et on se voit pratiquement une fois par jour, au minimum. Et on fait des missions communes. On envoie des experts de notre côté qui accompagnent les experts du ministère de la Santé et du projet. Donc, on a une collaboration extrêmement intensive pour justement suivre ce...
Oui, mais dans bien des cas, lorsqu'on apprend qu'il y a collaboration entre le ministère de la Santé et la Banque mondiale, bon, on a l'impression que concrètement, sur le terrain, on ne le sent pas. Hein. Les suites palpables ne se font pas sentir. Comment est-ce que la population congolaise arriverait à percevoir réellement les interventions de la Banque mondiale dans les domaines de la santé? Vous avez dit que vous allez appuyer les hôpitaux en médicaments, réhabiliter quelques centres, mais...
On ne voit pas l'impact.
J'ai entendu. Hein, c'est une préoccupation pour nous. Tout ce temps qu'on a mis, je vous ai dit, la difficulté de mettre en place les équipes de ces ONG internationales. Et maintenant, on considère qu'il est obligatoire de voir des résultats arriver sur le terrain. On a dit octobre. Là, on montre nous-mêmes notre impatience, le projet également, vis-à-vis de ces ONG qu'on a sommé, si vous voulez, de délivrer. Vous avez raison, ça a été un peu lent comme démarrage. C'est habituel, hein, les projets de la banque, en général, démarrent très lentement, puis...
Ils ne sont pas directement visibles.
Ah, ça... vous savez que normalement, oui. les projets de la banque sont exécutés par le gouvernement. Nous restons en arrière-plan. C'est vrai qu'ici, au Congo, on nous demande un petit peu plus d'intervenir et de nous montrer plus fort. De manière plus visible, mais habituellement, nous restons en arrière.
Donc, en fonction de ce projet, dans les jours à venir, dans les mois à venir, les personnes, les Congolais qui nous suivent, s'ils vont dans les centres de santé se faire soigner, on n'aura plus à leur demander d'acheter des médicaments dans les pharmacies, on va leur donner ça peut-être gratuitement dans les centres de santé.
Non, pas gratuitement. Je crois que le système du gouvernement, parce qu'on respecte les usages du gouvernement, il y a un recouvrement des coûts sauf pour certains médicaments qui sont donnés gratuitement, comme par exemple les médicaments contre le paludisme. Mais les moustiquaires sont également donnés gratuitement.
Distribués gratuitement,
oui. Mais donc pour le reste, vous savez qu'il y a un petit recouvrement des coûts, mais certainement qu'ils seront beaucoup plus accessibles. Et je dirais que moi j'attends que les médicaments, vous me dites dans quelques mois, non, pour moi c'est dans quelques jours, puisque vous avez entendu Bandaka c'est là, on a entendu Angie sur la mission pas encore distribuée, et j'imagine qu'à la Mongala ils vont arriver dans les jours qui viennent.
Oui. Sur le bateau. Oui. Alors Jean-Pierre Machandé, nous rappelons que vous êtes le chargé du programme PARS à la Banque mondiale. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes de suivi que vous avez mis en place pour voir si réellement les fonds qui ont été débloqués ont servi à quelque chose?
Oui, donc vous avez entendu ce qu'a dit le docteur Wangata à ce sujet. Donc il a parlé de 4 niveaux. Il a évoqué notamment la visite des experts du ministère de la Santé, du projet et de la Banque mondiale, qui vont sur le terrain. Alors, il y avait un consultant que nous avons recruté spécialement pour ce suivi, qui va visiter tous les districts. Bah, il ne peut pas aller dans toutes les zones. Vous imaginez bien que c'est presque impossible. Hein. Il y a 84 zones à visiter. Donc, on choisit quand même des zones exemplaires, bah, qui représentent les représentatives du projet. Et j'entendais que quand il a été justement à la Mangala, il a dû faire 8 heures de moto pour arriver à aller visiter un centre de santé. C'est pas facile, c'est un expert d'un certain âge qui a dû faire, il n'y a pas d'autre moyen pour y aller.
Et nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir au 081 890 63 94 pour poser leurs questions. Vous avez ciblé l'Équateur, vous avez ciblé Bandundu. Nous retenons également qu'il y a la province de Katanga, qui est
ciblée. Le Maniema aussi. Oui, la province de Kinshasa aussi. Oui. D'accord. Ça, c'est, disons que Kinshasa, vous imaginez bien que c'est le plus simple pour nous.
Il n'y a pas beaucoup de problèmes à Kinshasa, vous voulez dire?
Non, certainement.
Par rapport aux autres?
Oui, par rapport aux autres, pour l'accès en tout cas.
Mais par rapport aux autres, justement, parlons du Maniema. Vous avez un nombre de centres de santé que vous avez répertoriés, que vous conservez?
Ben oui, on a les zones dont on parle au Maniema. Toutes les zones qui sont identifiées au Maniema vont recevoir un appui complet. Ça consiste en à peu près $3.50 par personne par an pendant 4 ans, ce qui est considérable. Quand on rapporte, quand on met ça dans le contexte congolais, c'est un montant relativement élevé.
Oui, on a une autre question qui nous arrive de la population congolaise. C'est un auditeur qui a gardé l'anonymat qui dit on aurait souhaité que l'appui de la Banque mondiale nous permette d'accéder aux soins gratuitement, parce que c'est ça qui pose problème un peu partout au Congo.
Écoutez, la banque donne l'argent au gouvernement, donc au ministère de la Santé. C'est la politique du ministère de la Santé qu'on doit suivre. Il y a d'autres projets qui, par eux-mêmes, décident de donner des soins gratuits. Vous avez aussi des ONG dans le cadre humanitaire qui distribuent des soins gratuits et des médicaments gratuits. Et effectivement, on peut imaginer, c'est une approche qui est acceptable. Hein. Si on nous dit, si le gouvernement changeait de stratégie demain, on les suivrait tout à fait.
Donc, le gouvernement aujourd'hui demande à la Banque mondiale de l'aider afin que les soins de santé soient gratuits en RDC, la Banque mondiale serait prête à accepter cela?
Ben évidemment, ça c'est clair, c'est la décision du gouvernement qui compte. Mais je vous
signale. La Banque mondiale est prête pour augmenter la cagnotte.
C'est toute la population congolaise qu'il faudrait appuyer, hein,
oui, les soins gratuits. Non, mais je vous signale tout de même que la gratuité des soins fait débat depuis très longtemps. Il y a des gens qui cherchent l'intérêt des populations et qui sont pour un petit recouvrement des coûts. On ne dit pas un gros recouvrement des coûts parce que ça aide, si vous voulez, à entretenir le circuit d'approvisionnement des médicaments. Quand vous coupez cela, tout l'effort doit venir d'en haut et il faut un effort logistique extrêmement important pour arriver à assurer que le médicament arrive en bas.
Oui, Jean-Pierre Massal, le problème c'est que aujourd'hui l'accès aux soins de santé reste un problème très sérieux dans notre pays. On a appris dernièrement que près des 70% de la population n'ont pas accès aux soins de santé de qualité et la plupart des hôpitaux sont dans un état
délabrement.
Ouais, ils fonctionnent dans des conditions difficiles.
Ils ne sont même pas équipés.
Ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de médicaments. Alors, aujourd'hui, vous parlez d'un projet PARS, mais apparemment, on se demande, mais quel est l'impact social, l'impact sur les terrains? Jusque-là, on n'arrive pas à le ressentir. Et dans combien de temps on peut le ressentir?
Je répète ce que je vous disais. On est, nous, impatients, extrêmement impatients, et nous comptons voir des résultats. Bon, vous avez dit quelques mois, mais ça, c'est pour les équipements et des matériaux plus lourds qu'il faut commander et qui doivent encore arriver, les moustiquaires notamment, qui vont mettre... Je vous donne un exemple. Les moustiquaires ont quitté la Chine il y a quelques jours, et elles arriveront après le port, après etc., puisqu'il y en a qui vont arriver par Dar es Salaam, il y en a qui vont arriver par Matadi. On compte qu'elles arrivent après, à peu près sur le site en deux mois et demi, trois mois. Donc, vous voyez que tout ça prend du temps. On parlait de pièces de rechange pour des véhicules ou pour des engins lourds pour la construction de routes qui mettent 4 mois à arriver d'Europe ou des États-Unis pour arriver donc dans des zones aussi reculées que la Mangala ou le Bandaka.
Parlons des moustiquaires imprégnés. Dans les cas, lorsqu'on apprend qu'on donne des moustiquaires imprégnés gratuitement, et ben, par après, on apprend que ces moustiquaires sont vendus.
Vous cherchez à me piéger là, parce que d'une part vous me dites qu'il faut donner les médicaments gratuitement, puis vous allez nous reprocher de donner des moustiquaires gratuitement. Non, vous avez raison Yves, en fait c'est vrai qu'il faut accompagner la distribution gratuite de moustiquaires d'un message, d'une sensibilisation pour que les gens, effectivement, ne commencent pas à les revoir.
Il faut aussi suivre les zones de santé, parce que bon, on peut toujours les vendre là où vous les distribuez, hein, à la population.
Oui, mais si on distribue à tout le monde de manière très libérale, si on donne à peu près 2 moustiquaires par famille, à qui est-ce qu'ils vont les vendre? Quand vous êtes dans un village reculé, ils ne vont pas avoir grand monde à qui pourront vendre leurs moustiquaires. Donc on suppose, avec une bonne sensibilisation, et si la femme est convaincue que d'avoir un moustiquaire chez elle permettra de protéger son enfant contre le paludisme, même également s'il est enceinte, oui, je pense que ça...
Jean-Pierre Massandé, alors si je comprends bien, la manière dont vous travaillez, c'est que vous remettez les fonds au gouvernement, et il revient au gouvernement de mettre en application ce programme, et vous serez là comme des inspecteurs, en train de voir comment le travail est exécuté.
C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça.
Mais tout à l'heure, vous avez évoqué un autre point, vous avez dit que vous travaillez aussi avec des ONG sur terrain, qui travaillent sur terrain, alors on se demande comment ça se passe. Est-ce que les ONG viennent, ils soumettent des projets auprès de la Banque mondiale et vous les appuyez pour travailler sur le terrain?
Non, non, les ONG sont recrutées de manière compétitive par le gouvernement, par une agence du gouvernement qui les met en compétition, choisit la meilleure qualité en faisant attention au coût. Et donc on fait une sorte de pondération entre la qualité et le coût, et c'est cette ONG qui gagne le marché.
Oui, nous savons par exemple en Afrique du Sud, parlant toujours de l'accessibilité aux soins, en Afrique du Sud aujourd'hui on permet à toutes les femmes enceintes d'accoucher sans pour autant payer les frais. Vous êtes informés de cela?
Oui, là par exemple, je vous donne une information que je crois, qui n'est pas très largement diffusée, c'est que nous considérons que cet aspect-là, l'accouchement et la césarienne, qui suivraient éventuellement dans le cas d'un accouchement difficile, devraient être gratuits.
Vous le concevez, mais vous ne pouvez pas...
Oui, non, c'est quelque chose qu'on poussera. En tout cas, la gratuité de la césarienne, nous pourrons pousser. Parce que, je vous disais, le recouvrement des coûts pour les médicaments, c'était pour justifier, si vous voulez, la pompe là, qui amorce et qui permet d'entretenir le mouvement du médicament. En ce qui concerne la césarienne, franchement, ce que vous allez trouver ne représente pas grand-chose par rapport au coût réel de la césarienne.
Oui.
Donc, nous pensons que ça...
Parce que là où ça se fait, vous parlez de la césarienne, ça coûte énormément cher, hein, dans les grands centres hospitaliers de la place.
Entre 100,
dans la ville de Kinshasa.
Oui, entre 100 et 150 dollars. Nous connaissons les prix.
C'est plus. Dans les centres privés, ça va jusqu'à 1000 dollars.
Oui, dans les centres privés. Mais enfin, quand vous allez à l'hôpital Saint-Joseph ou ailleurs, ça varie entre 100 et 150 dollars. Donc, dans les...
Oui, c'est peut-être un peu plus encore. Alors, aujourd'hui, on reçoit une chose, c'est que l'appui de la Banque mondiale dans le domaine de la santé pourrait s'étendre davantage. Ça ne va pas se limiter que dans les médicaments ou encore dans les moustiquaires, mais ça pourrait aller au-delà.
Non, enfin, oui, on vous a dit le paquet complet, c'est-à-dire il y a donc les infrastructures, les équipements médicaux, l'appui au personnel, la motivation. La motivation représente une proportion importante. Vous savez que les salaires sont très bas, que les gens sont relativement peu motivés et que il faudra mettre de l'huile.
Mais il y a aussi une chose qu'il faudra relever. C'est bien d'appuyer le gouvernement congolais, mais le gouvernement, il faudrait qu'il arrive aussi à un moment donné à s'organiser, sans pour autant compter sur l'appui d'un quelconque partenaire.
Oui, ça c'est, vous parlez d'un objectif à plus long terme. On est bien d'accord là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on n'envisage pas dans les 2-3 années qui viendront.
Alors,
la durée du projet.
Jean-Pierre Massandé, nous savons que vous appuyez, cet appui sert à lutter contre plusieurs maladies, tuberculose, la rougeole, la trypanosomiase, mais nous savons que les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans sont beaucoup plus menacés par la malaria. Est-ce que c'est ces domaines-là qui sera beaucoup plus appuyé?
Bah oui, vous avez entendu qu'il y a 30 millions de dollars spécifiquement consacrés au paludisme.
Oui.
Je vous ai dit, je répète, les moustiquaires imprimés, les médicaments spécifiques pour cette maladie.
Jean-Pierre Massandé, nous rappelons que vous êtes chargé du programme PARS à la Banque mondiale. Nous vous disons merci d'avoir accepté
à
nos questions et nous comptons vous revoir prochainement pour faire le suivi.
Tout à fait d'accord et j'espère pouvoir vous donner de beaucoup meilleures nouvelles à ce moment-là.